France Bleu RCFM. France
Bleu. Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et comme chaque mercredi, j'accueille Jean-Michel Fraticelli. Bonsoir.
Bonsoir Marie.
Et pourquoi le mercredi? Pour celles et ceux qui ne nous suivent pas encore, qui ne sont pas mordus de cette émission.
Parce que c'est le jour des enfants.
Non, parce que chaque jour, nous changeons de chroniqueur.
Ah oui, d'accord.
Et c'est aussi, vous êtes là le mercredi parce que c'est le jour des enfants.
Le vendredi, c'est le jour du poisson. Le mercredi, c'est le jour
c'est
des
Christophe
enfants.
Christophe Zagal, il y a le vendredi.
Parce qu'on ne peut pas manger tous les jours la même chose. Voilà.
Mais ça, moi, je l'ai compris depuis longtemps. Oui, c'est pour ça que je change de chroniqueur tous les soirs. Même si je n'ai pas l'impression de vous dévorer les uns et les autres. Mais ça, ça viendra peut-être au mois de septembre. Nous allons parler de musique et de grande musique. La plus belle, la lyrique. Celle qui me tient au cœur, celle qui me fait vibrer. Et je sais que vous aussi, vous y êtes sensible, mon cher Jean-Michel. En recevant l'une des représentantes d'un trio, les Nymphes, qui se produiront le 28 mai prochain au Centre d'art polyphonique de Sarthe. À 19h. Elles se sont déjà produites. Ce sont des nains, ce sont des femmes. Et donc, l'une d'entre elles est avec nous ce soir jusqu'à 18h.
Qui est là?
Bonsoir, qui est là?
Anne-Marie Grisogne.
Anne-Marie Grisogne, soyez la bienvenue dans ce studio et à ce micro d'RCFM.
Et on a de la chance.
Ouais, c'est un honneur de vous avoir, vraiment, puisque cela fait des années que vous œuvrez au sein du Conservatoire Henri Thomaz. Comme professeur de chant lyrique, vous êtes également chanteuse et vous vous produisez avec les Nymphes. Lorsque je dis les Nymphes, on entend Anne-Marie Grisogne, mais il y a aussi Julia Knecht ou encore Émilie Ferry qui est au piano. Et puis, il y a également aussi ce concert qui a eu lieu récemment en hommage à Agnès Amat, dont les profits sont allés à la Ligue contre le cancer, où on retrouve d'autres fous de musique et d'autres musiciens, dont des fous d'opéra, figurez-vous, comme Françoise Loujani, avec qui vous chantez souvent.
Et oui.
Comment vous vous êtes rencontrée avec Françoise?
Alors avec Françoise, c'est une longue amitié, parce qu'en fait, nous avons commencé le chant ensemble.
D'accord.
Après des études de piano, j'ai décidé d'arrêter, d'interrompre mes études pianistiques pour des raisons parce que je n'arrivais pas, malgré le travail que j'effectuais,
à atteindre l'objectif,
mais surtout pas seulement ça, à vaincre mon trac.
Oui.
Et je crois que c'est difficile pour un musicien, enfin un artiste, ou un musicien, ou un comédien, enfin n'importe quel artiste, de ne pas pouvoir communiquer avec le public. À un moment, le trac, eh ben, j'avais le trou noir.
Mais attendez, comment on peut avoir le trac en jouant du piano et pas ne pas l'avoir en chantant?
Voilà.
C'est ce que vous vouliez dire, Marie.
C'est ça qui est fou. Je pense que le piano n'était pas mon instrument.
Tout simplement.
D'accord, oui.
Je pense que c'est tout.
C'était pas le bon médium d'expression. Ouais.
Voilà. Voilà. Et donc, à 19 ans, ben, j'ai décidé
de changer.
D'aller comme ça prendre un cours de chant. Le conservatoire venait d'ouvrir. Un certain monsieur Guy Lacquéry était nommé professeur.
Et célèbre donc, Guy Lacquéry.
Voilà.
Ouais.
Et donc, je suis allée le voir. Et apparemment, bon, je berçais dans l'opéra.
Ce qu'il faut dire, Anne-Marie, c'est qu'à la maison, vous entendiez beaucoup d'opéra.
Ah, oui.
Votre maman chantait.
Alors,
également.
Maman chantait. Ouais. Maman est du Nord. Donc, dans sa famille, c'est une famille de musiciens. Elle chantait, elle jouait la comédie. Enfin, elle chantait pour son plaisir en amateur. Une belle voix de mezzo. Elle avait une très belle voix de mezzo que j'admirais, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup l'écouter.
Est-ce que vous diriez que vous aviez le même timbre de voix, puisque vous êtes mezzo également?
Un petit peu, oui.
Oui.
Oui. Des fois, lorsque je chante, il y a des sons.
Vous l'entendez un peu?
Oui, j'entends maman, oui.
C'est drôle, sentiment.
Oui.
Lorsque on se dit, tiens, je vais essayer de chanter, parce que ce piano, j'ignore pourquoi, je sais pas, j'ai trop de trac, je communique pas bien avec le public. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que l'apprentissage allait être si ardu? Parce que c'est pas simple d'être chanteur, chanteuse lyrique.
Moi, je me suis pas posé toutes ces questions. En fait, depuis l'âge de 14 ans, j'écoutais mon frère qui mettait des opéras, donc je berçais avec les voix de Corelli, de Freni, de Maria Callas, tous ces grands. Et donc, il faut que je parle quand même de quelque chose, parce que Mon frère, il y avait une école municipale avant le conservatoire. Donc, il y avait une personne qui donnait des cours de chant, qui s'appelle Madame Palmieri, et qui à l'époque, donnait donc des cours de chant, et il m'est arrivé d'aller l'écouter, d'aller écouter ses cours. Et je crois que, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais lorsque j'ai entendu cette personne chantait en duo avec un certain Nicolas Calcar, qui chantait le duo de la Bohème, il s'est passé quelque chose. Oh. Bon, après, inconsciemment, je me suis pas dit je ferais du chant. Pas du tout. Mais il s'est passé quelque chose quand même. J'ai été...
Un déclic.
Ah, il y a eu quelque chose. De parce que c'est pas pareil d'écouter et de voir. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'opéra. Moi, je vois mes élèves, je leur dis, si vous pouvez partir sur le continent, lorsque vous allez sur le continent, allez voir un opéra, parce que c'est pas pareil. Mmh. L'opéra, c'est la mise en scène, c'est le décor, c'est la scène, et surtout, c'est vraiment le chanteur en direct. On le voit chanter en direct, on le voit respirer, on le voit...
Oui, c'est la même magie que le théâtre. C'est la magie. On a le comédien en face.
C'est exactement la
c'est
magie.
Le spectacle vivant,
c'est le spectacle vivant, c'est ça.
Par rapport à l'enregistrement, et puis là, en l'occurrence, dans l'opéra, c'est le théâtre mêlé à la musique. Donc, c'est vrai que lorsque vous assistez en direct à un opéra ou même à un récital, il n'est pas nécessaire de voir un truc de fou, hein.
Pas du tout.
Une grosse production.
Tout à fait, bien sûr.
L'émotion passe et oui. Généralement, les gens sont saisis. Et ça, c'est pour toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'expérience avec des amis qui ne connaissaient pas du tout l'opéra, qui avaient l'impression que c'était pas pour eux, que c'était une niche, se pensaient insensibles à cette musique-là, et qui d'un coup assistent à un spectacle vivant.
Mais oui.
Et sont cuits pour toujours.
Mais ce qui est dommage, c'est qu'on sacralise un peu l'art lyrique. Alors
trop,
que bon,
c'est populaire.
Voilà, tout à fait. C'est ça. Et même mes élèves, lorsqu'ils viennent en cours, et qu'ils se demandent, mais est-ce que vous pensez que je peux être chanteuse lyrique? J'ai dit, chante d'abord.
Fais-toi plaisir.
Après, on verra, chanteuse lyrique, pas lyrique, chante. Et puis voilà, et c'est bien de le désacraliser. Et voilà, et donc j'espère, là, je profite de pouvoir le dire... j'espère que ça serait bien qu'il y ait plus de musique lyrique à Bastia.
Qu'on retrouve il y a une culture en plus de la musique lyrique.
Dans les années 80, on avait 3 opéras par an. Et moi, grâce
au
théâtre de Bastia, lorsqu'il a rouvert dans les années 80.
Oui, c'est ça.
J'ai chanté un rôle quand même. J'étais élève et j'ai chanté le rôle du page dans Rigoletto avec un des plus grands baritons, Felice Schiavi, qui venait d'Italie.
Non mais c'est plus drôle que ça, c'est que vous n'aviez jamais vu d'opéra. Votre premier opéra, en fait, vous y avez participé.
On m'a mis une perruque, on m'a mis un truc et alors j'avais une petite phrase. Mais ça a marqué.
Moi, je me souviens d'une petite anecdote comme ça. On parlait des années 80. Ils avaient joué Haïda dans la cour.
Oui,
du palais des gouverneurs.
Du lycée.
Jean-Nicole. Marbeuf, à l'époque, il y avait tout le temps des concerts dans cette cour.
Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que le chef d'orchestre s'était disputé avec le soliste de la trompette.
Voilà de quoi il se souvient.
Et il a fait exprès de jouer faux. Et tout le monde debout en train de siffler.
Mais j'y étais.
Vous vous en souvenez, c'était extraordinaire. C'était un moment extraordinaire. Parce que se planter sur le solo de trompette dans Haïda.
C'est ce qu'on attend. Hein.
C'est tout le monde attend.
Là, c'est fichu pour tout le monde.
Voilà.
Notre invitée, la mezzo-soprano Anne-Marie Grisonne, est jusqu'à 18h pour nous parler de ce trio, Les Nymphes, qui se produira le 28 mai au Centre d'art polyphonique de Sartène à 19h. Il y a un aspect pédagogique, on en parlera avec Anne-Marie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment les contacter, notamment par le biais des réseaux sociaux, tout simplement Les Nymphes, vous allez les trouver. Et vous pouvez les appeler si vous désirez programmer leur spectacle. On vous fait un petit cadeau, c'est quelque chose que vous adorez, on le sait, on s'est renseigné. Figurez-vous que
je
n'avais jamais entendu cet air par ce duo-là. Quelle erreur, comme quoi on en apprend tous les jours. Et je vous remercie, ne serait-ce que pour ça, parce que j'en ai pleuré tout à l'heure quand je l'ai découvert. Et merci parce que c'est grâce à vous, parce qu'on m'a dit ça va vraiment lui faire plaisir.
Oh.
Félicie Tillotte et Anne Murray. C'est incroyable. Voilà. Le réveil, donc. Dernier chausson sur un texte d'Honoré Balzac.
Elles ont souvent chanté ensemble, d'ailleurs. C'est vraiment des sœurs de chant. On voit comme elles s'entendent. C'est, bon, en tout cas, moi, ça a été ma référence. C'est les chanteuses que j'ai écoutées, les deux chanteuses que j'ai écoutées pour travailler. Par rapport à ce trio.
Oui, parce qu'avec le trio des non, nymphes, non. Vous le jouez, oui. Ce morceau, oui. Avec oui. Julia Knecht avec, on va le rappeler, Émilie Ferry, donc au piano. Un mot sur Anne Murray, sur sa performance, sur cette chanteuse qu'elle est, incroyable.
Anne Murray, pour moi, c'est une des plus grandes mezzo. Mais en même temps, on sent l'humilité, on sent. C'est
l'une des chanteuses qui vous touche, des mezzos qui vous touchent le plus.
Oui, d'une intelligence. C'est pas grossi, c'est intelligent, c'est de l'intelligence musicale. Je peux vous dire de plus. Voilà, moi c'est Anne Murray. Voilà. Et donc dès que, mais je ne savais pas en fait, c'est Julia qui m'a passé le disque, elle m'a dit t'écouteras et tu me diras ce que tu en penses par rapport à comment tu conçois. Et bon, voilà, c'est ma référence, je les écoute. Et alors, sans vouloir les copier,
c'est pas le but. Ouais.
Mais je trouve en plus qu'avec Julia, on a des voix qui vont très très bien ensemble. Et donc, on arrive quand même à, le plus possible, on essaie, mais on y arrive à
cet échange, cette intimité.
Avec Émilie aussi.
Émilie, elle joue remarquablement bien.
Ouais. Ludovic Tézier, qui était en visite, sa femme, il vous embrasse, c'est gentil.
J'étais avec lui cet après-midi.
Il embrasse Jean-Michel, mais pas moi. Non, c'est moi qui l'embrasse.
Non, il disait, je regardais une interview dans le journal ce matin, il disait qu'il y avait une façon propre à la Corse de chanter, voire au sud, en fait. Vous partagez cette opinion?
Voire au sud.
Au sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Italie.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des voix naturelles en Corse. Ça, c'est évident. Et après, je vois pas ce qu'il veut dire.
On a une manière de s'approprier le chant, de chanter.
Bon, en tout cas, il y a des voix naturelles. Donc, ça c'est évident.
Et puis, il y a une culture.
Une culture, voilà. Bien sûr, oui.
Voilà. Après, est-ce que il y a une façon de chanter? Je pense que c'est la culture, c'est l'histoire, c'est les racines.
Je le vois demain, je lui poserai la question, voir un petit peu ce qu'il
entend par là.
Demain à 17h.
Oui, parce qu'il est là, parce qu'il donne une masterclass.
Sa femme et lui font une masterclass, là. Et j'y étais tout à l'heure, je me régale.
Vous avez des élèves?
Alors, j'ai deux élèves qui ont été...
qui vont suivre, qui ont été sélectionnés et qui vont suivre cette masterclass.
Il y a de très belles voix, vraiment de très belles voix du continent aussi, vraiment sympa.
Ouais. Ah, ils chantent, vous voyez, il n'y a pas que dans le sud de l'Europe et en Corse qu'on chante.
Le continent, il y a le sud.
On chante aussi. Et alors, si vous allez en Géorgie, je ne vous dis pas les voix que vous allez retrouver. 17h23, c'est l'invité mystère. Et oui, nous avons un invité mystère, dont la voix est grimée.
L'invité mystère.
Mettez votre casque, Anne-Marie. Bonsoir, invité mystère.
Bonsoir. Oula.
Comment allez-vous, invité mystère?
Je vais bien, merci.
Vous n'êtes pas en train de suivre une masterclass?
Non.
Non, on a de la chance.
Malheureusement, non.
Moi, j'ai pas pu. J'espère que l'invité mystère chante, parce que j'aimerais bien entendre chanter avec cette
voix-là. L'invité mystère, je ne sais pas s'il chante. En tout cas, le malheureusement a donné une indication à Anne-Marie. Elle a fait un tac, malheureusement.
Ah.
Vous pensez à quelqu'un? Oui, c'est facile. C'est très facile. Vous pensez à?
Je pense à une certaine Julia
Knecht. Bonsoir Julia.
Bonsoir. Alors, comment allez-vous?
Très bien, il y a des invités mystères qui sont découverts comme ça en quelques secondes.
Mystère très longtemps.
Oui, on parlait de vous il y a un instant. Vous avez des élèves, vous également, qui font partie de cette masterclass?
Alors des élèves, plutôt des amis chanteurs aussi, voilà, il y a il y a Jean-Marc Jonc, Morgane, il y a voilà.
Lucille Cheneau.
Lucille Cheneau, oui.
Mais elle n'est pas en train de passer son bac, Lucille Cheneau.
Lui dire.
Le révise d'option musique, c'est tout.
Et vous, Julia, Julia, vous faites partie du trio Les Nymphes, évidemment, oui. On en a parlé avec Anne-Marie, mais surtout, vous étiez l'élève d'Anne-Marie.
Ah oui, tout à fait. C'est pourquoi je suis ravie de pouvoir vous participer à cette émission de loin, puisque là je vais à Nîmes pour un spectacle. Et c'est vrai que Anne-Marie est la personne pour moi qui m'a donné ses bases en termes de technique vocale, mais aussi qui m'a donné ce mental, cette force aussi que j'ai aujourd'hui. Et le fait de partager avec elle ces moments musicaux dans les Nymphes, c'est non seulement un grand bonheur, mais j'ai l'impression de retrouver mes racines. Et pour un artiste, retrouver ses racines, c'est déjà, je pense, l'essentiel. Et je dois énormément à Anne-Marie. Voilà, donc je suis très émue de pouvoir être dans cette émission.
Oh, c'est
avec
adorable,
elle.
Adorable. Voilà. Anne-Marie nous parlait du trac que l'on peut ressentir sur scène, et notamment lorsqu'elle jouait du piano avant de se lancer dans le chant. Le trac, c'est quelque chose qui vous traverse parfois, ou qui est tout le temps là et qu'on gère?
Il est tout le temps là, je pense. Et il y a plusieurs tracks. Vous avez le... Je pense qu'il y a celui qui paralyse, malheureusement, je pense que celui-là, on devrait l'oublier. Mais il y a aussi celui qui... Parce qu'on a envie d'aller sur scène, on a envie d'être là. Et je pense que c'est celui-là qu'on doit garder. C'est le bon track.
Le track positif, en fait.
Et le trac positif. Et celui aussi qui nous permet de se remettre en question aussi, de se poser les bonnes questions et de faire qu'on est sur scène. Hein. C'est ça, on aime aussi le trac hein, en tant qu'artiste. Mmh. J'aime aussi le trac.
Bon, on aime souvent ce qui nous fait souffrir, vous savez. l'être humain est ainsi fait. Mais que vous Anne-Marie,
je pense qu'il le faut. Quand même. Il le faut. Mais lorsque je parlais du trac en piano, c'était vraiment un trac destructeur.
Ah ouais.
Donc c'est vraiment le mauvais trac qui me glaçait, voilà. Tandis que en chant, j'ai bien évidemment le trac comme tout le monde, mais c'est un trac qui fait avancer tout simplement.
Pourquoi il le faut ?
Ah, il le faut parce que ça veut dire qu'on prend conscience des choses. C'est quand même assez important. C'est
du respect qu'on a peut-être
tout à fait
pour le public.
Ah bah oui, parce que rentrer comme ça sur scène, bon, non. Et je pense que tout le monde l'a, même si certaines personnes disent moi je l'ai pas.
Il paraît que le trac est réservé aux gens qui ont du talent.
Oui, comme
je sais pas si c'est vrai.
Je crois que c'est Guitry qui dit ça.
Oui, c'est Guitry. Oui, je sais pas si c'est vrai. Pour les trois demoiselles, je disais tout à l'heure qu'on peut vous contacter si
bien sûr.
Si des mairies, des collectivités ont envie de vous entendre.
Tout à fait, les mairies, certains festivals, et puis pourquoi pas rentrer dans une programmation, dans des centres culturels, théâtres, voilà, nous sommes disponibles et nous avons notre programme qui est prêt, voilà.
Julien, on vous embrasse très fort.
Moi
je ne sais pas si...
Embrasse.
Oui, alors Anne-Marie, elle va nous raconter quand vous êtes arrivée dans sa classe, comment ça s'est passé. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'écouter, si vous voulez raccrocher, si vous êtes sur la route, mais en tout cas, nous, on vous embrasse. Mais si vous voulez rester avec nous, restez. Ne bougez pas. Faites comme vous voulez, Julien.
Elle est peut-être prête à prendre l'avion. Là.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Anne-Marie, vous vous souvenez de ce moment où Julia est entrée dans votre classe ?
Ah oui, oui. Mais Julia, c'était une personne... elle avait une voix naturelle et une personnalité.
Qu'est-ce que ça signifie pour nos auditeurs une voix naturelle? Parce que c'est votre cas aussi. Vous aviez une voix naturelle, Anne-Marie.
C'est-à-dire, elle avait déjà elle avait un timbre, elle avait une certaine force vocale aussi, quelque chose de
Un placement de voix.
Après, bien évidemment, il fallait replacer ça sur le souffle, ce qu'on a fait pendant 3 ans, puisqu'elle est arrivée, elle était en seconde, elle est partie ensuite en terminale. Mais vous savez, moi, lorsque j'ai Je ne veux pas, parce que je pense que les élèves ne nous appartiennent pas. Étant donné qu'ici, il n'y a pas de structure.
Bien sûr.
Donc, je me sépare des élèves assez rapidement. Donc, j'essaie de faire le plus possible en 3 ans. Et ensuite, je les guide vers d'autres conservatoires. Et Julia, je crois qu'elle est partie à Nice. Hein. Et ensuite, après, à Paris, donc elle a fait. Mais j'ai tout de suite vu, parce qu'il n'y a pas que la voix, il y a aussi le mental, il y a aussi la personnalité, il y a le caractère. C'était une élève bosseuse.
Mais quand vous parlez de voix naturelle, mais lorsqu'on n'a pas une voix naturelle, on peut fabriquer la voix à quelqu'un?
Ça ne veut rien dire, bien sûr, tout à fait. Ça veut pas, et je dirais même.
Et on arrive à des résultats équivalents.
Bien évidemment, tout à fait.
Mais c'est plus court avec une voix naturelle.
Tout à fait. Voilà, il y a déjà, un petit vibrato déjà installé, donc on n'a pas à le
travailler.
Vous voyez, Marie, rien n'est perdu pour vous.
Mais par contre,
pauvre de nous.
Voilà.
Et puis il y a le charisme aussi,
oui, tout à fait.
Puisque vous êtes des artistes de scène, des artistes de théâtre, des artistes lyriques, surtout aujourd'hui.
Il faut être complet en fait.
Aujourd'hui c'est pire que tout, on demande aux artistes lyriques, les metteurs en scène sont complètement fous de chanter sur les mains, allongés par terre, enfin bon, des performances qu'on demandait moins il y a quelques années. Et donc il faut savoir absolument tout faire. Vous-même aussi vous avez dû partir. Vous avez dû quitter la Corse pour votre formation.
Bien sûr, je suis partie donc à Montpellier.
À Montpellier.
Où j'ai passé mon prix, où j'ai mon prix d'art lyrique, mon prix de chant. Et ensuite, je suis rentrée au CNIPAL. Et c'est là que j'ai rencontré Ludovic Thésier.
Quel genre de chanteur il était?
Oh, et ben, le même.
C'est vrai?
Le même. Il a un peu changé.
Physiquement, vous voulez dire. Mais la voix était là?
La voix était déjà là, elle c'était pas cette voix-là.
Bien sûr.
Mais la voix était là, l'intelligence. Et puis il savait qu'il ne devait pas rester au CNIPAL. Au bout d'un an, parce qu'on avait 2 ans de stage, et au bout d'un an, il s'est dit, bon, je sais pas, voilà. Et il a bien fait.
Bon, c'est l'un des plus grands barytons au monde.
Au monde.
Disons-le.
On a à Bastia actuellement un des plus grands baritons au monde qui donne une masterclass. Voilà.
C'est toujours au centre culturel.
Aujourd'hui, c'était à Herbalongue.
On a l'un des plus grands baritons au monde qui donne des cours, des masterclass chez Françoise Aguiloujani.
Avec formidable. Sa femme, avec son épouse qui est une soprano.
Ils forment un
duo exceptionnel. Même dans la pédagogie, ils savent comment gérer. C'est formidable.
Est-ce que le spectacle des nymphes, comme je le disais, a aussi un but pédagogique?
Oui, bien sûr. On a fait une petite intervention lorsqu'on a chanté au musée. On a fait une intervention pédagogique avec les chaves et les chaves, parce que moi, au conservatoire, je m'occupe des chaves, c'est-à-dire des horaires aménagés voix, et ça leur a beaucoup plu, donc on a parlé des poèmes, on leur a chanté, donc ils étaient un peu surpris aussi d'entendre des voix, parce qu'ils n'avaient jamais entendu... Enfin, moi, ils m'entendent rarement, parce que je chante peu, en fait, avec eux.
Et mais vous arrive d'illustrer quand même?
Oui, quand même un petit peu. Mais là, c'était vraiment un petit concert d'une heure... Et ensuite, ils ont posé des questions très pertinentes, vraiment. Et voilà, oui, c'était très intéressant.
Ce qui est bien, c'est de pouvoir aller dans les écoles, comme ça, faire des démonstrations.
C'est super.
Ce qu'a fait Bertrand Cervera il y a une dizaine de jours, je crois, à l'école de Francard, où il leur a expliqué les quatre saisons. Les gamins, ils n'avaient jamais entendu. Ils n'avaient jamais rien entendu de tel. Ils se sont régalés.
Et puis, il faut voir les questions qu'ils nous posent. C'est vraiment des questions.
Très pertinentes, souvent, oui.
Très pertinentes.
Mais surtout que pour ceux qui sont au collège, ils étudient la poésie, ils vont étudier les poètes qui sont chantés dans ces mélodies avec ces compositeurs du 19e, parce qu'on l'a pas dit, c'est Gabriel Fauré, c'est Henri Duparc, c'est Ernest Chausson qu'on entendait tout à l'heure, c'est Charles Gounod, et puis les poètes, on va retrouver Hugo, Baudelaire, Théophile Gautier, Lamartine, Racine, là c'était Théodore de Banville.
De Banville, pardon,
avec
le poète du bonheur.
Voilà, avec le poète du bonheur que nous allons entendre dans la nuit. Un peu plus tard, interprété par Julia Knecht et par vous-même, Anne-Marie Grisogne. Il s'agit d'un moment filmé donc, au théâtre de Bastia pour Théodore de Banville. Et puis le réveil d'Honoré Balzac. Et ça, c'était tout à l'heure, c'est ce que nous avons entendu. Donc ces compositeurs du 19e se sont intéressés à la poésie. Et les élèves, ils étudient ces poèmes. Alors vous voyez, et puis en plus, ils sont en chave ou en chame, ils étudient la musique et ils font le lien, c'est très intéressant.
Très intéressant.
On va écouter Quand elle s'éclate, Julia, Anne-Marie, avec Françoise Loujagne dans Les Trois Demoiselles. Alors évidemment, vous allez entendre les clics.
Des appareils photo,
puisque c'est une prise de son direct au théâtre. Mais quand même, vous allez entendre d'abord la dextérité des voix, la beauté des voix, et puis surtout la joie qu'elles ont de chanter ensemble. Demoiselle, mais ça s'entend et ça se voit pour celles et ceux qui veulent voir la vidéo. Non mais ça joue la comédie, voilà, j'ai pas besoin de vous raconter, vous allez sur les réseaux sociaux, vous les découvrez, elles jouent toutes les trois la comédie, elles s'éclatent, et puis elles chantent merveilleusement bien. Les Trois Demoiselles, vous avez entendu donc Anne-Marie Grisogne, notre invitée, Françoise Loujagne et Julia Knecht. Le jeu, justement, le jeu théâtral. Comment l'apprend-on quand on est dans son apprentissage musical, lyrique? Est-ce qu'on vous apprend à jouer la comédie ou ça vient plus tard?
Alors,
ou sur le tas?
Au conservatoire, non.
Et voilà, c'est ça.
Il n'y a pas, quoique il y a des cours d'art dramatique, mais si l'élève a envie d'en prendre, il en prend. Mais en tout cas,
ça n'est pas imposé dans le cursus. Non.
Voilà, ça devrait l'être.
Ce qui est dommage.
Ah, ben oui.
Oui, mais s'il vaut mieux.
C'est quand même important. Donc voilà, donc après, bon, libre à l'élève chanteur d'aller prendre des cours de théâtre s'il en a envie pour se perfectionner et pour être plus à l'aise ensuite quand il chante.
Vous en parlez à vos élèves?
Ah ben oui. Oui, mais c'est surtout, j'en parle parce que lorsqu'un élève chante, c'est aussi pour le libérer de sa voix, parce qu'il est, il est sur sa voix, et donc à un moment, il faut passer à autre chose. Et le fait de jouer, ça permet de...
De libérer la voix.
Libérer la voix, oui, oui, c'est très important.
Oui, parce qu'il pense à son jeu, au lieu de penser uniquement à sa voix. Oui.
Mais est-ce c'est pour ça que le théâtre, est quand même, ça serait bien de pouvoir, dans le cursus, qu'ils aient ce cours... d'art lyrique, plutôt. Mmh. D'art lyrique.
Et lorsqu'on travaille sur la technique et qu'on libère sa voix, justement par des techniques théâtrales, c'est bien, mais est-ce qu'il y a aussi la compréhension du chant, l'intention ? On disait, par exemple, que certains chanteurs, certains ténors, les pauvres ténors, qu'est-ce qu'on les a accablés, les pauvres, ne comprenaient même pas ce qu'ils chantaient. Ça paraît fou, parce que l'intention est primordiale à l'opéra.
En tout cas, maintenant, c'est plus possible.
C'est plus possible. L'était à l'époque...
Ça l'a été, c'est vrai. Non, mais parce qu'à un moment, on ne privilégiait que la voix, tout simplement. Mais maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, Marie, maintenant, un chanteur, il doit savoir... D'abord, physiquement, ils sont magnifiques. Ensuite, ils jouent merveilleusement bien la comédie. Et puis, au niveau de la mise en scène, ils chantent, on leur demande des choses. Donc là, c'est plus possible. Il faut que ça soit crédible. Il est évident qu'à une certaine époque, quand on voyait un duo d'amour, on avait du mal à y croire.
Mais même Pavarotti, qui est l'un des plus grands, il était complètement monolithique sur scène.
Alors, il ne pouvait plus bouger. Enfin,
dès le départ, il n'était pas du tout acteur.
Il n'a jamais voulu. Non. Par rapport à Domingo, qui est
un immense acteur.
Domingo, c'est pas pareil,
Domingo, c'est...
Mais c'est-à-dire que Pavarotti, on pouvait tout lui pardonner, puisque voilà, la voix est telle. Il n'y a rien à dire. On passe là-dessus. Oui.
Montserrat Caballé aussi ne jouait pas beaucoup.
Mais pareil. C'est pareil. C'est comme Pavarotti. Tant pis.
Voilà.
C'est pas grave. C'est pas important. On peut imaginer que.
Pardonnez-moi, mais moi, ce qui me tue, c'est les voir bouger comme ça et pouvoir continuer à chanter en gardant leur souffle, leur respiration.
Mais c'est des sportifs de haut niveau.
Ce sont vraiment des sportifs de haut niveau aujourd'hui.
Ce sont des athlètes. Et puis, il est important de maintenir une forme physique.
Oui, bien sûr.
Très important.
Une hygiène de vie.
Ah oui, une hygiène de vie, c'est un métier difficile. Hein. C'est un peu un sacrifice aussi.
Engagement.
C'est un engagement. C'est pas...
Le théâtre, vous en faites.
Oui.
Je vous ai vu sur scène. Là aussi, elle s'éclate, je vous le garantis.
Madame Hélène.
Notamment avec Jean-Pierre Lanfranc, qui vous met en scène.
Ah ouais.
Et ça continue l'aventure, vous continuez.
Je ne raterai pas.
Vous êtes en répétition en ce moment.
Alors, je suis en répétition. Nous préparons une pièce en Corse.
Et alors là, le trac existe ou pas du tout?
Là, il va exister, parce que c'est en Corse. Par contre, l'année dernière...
Pour la langue, vous voulez dire, ça va être un peu plus compliqué.
Pour moi, ça va être un peu compliqué, oui. Par contre, non, l'atelier, non, je n'avais pas... non, j'étais à l'aise, ça allait.
L'atelier, c'est la pièce que vous avez jouée, l'atelier de Grimbert que vous avez joué l'année dernière.
De toute façon, quand on est en groupe ou en troupe, on a moins le trac que quand on est en solitaire.
C'est vrai, ça.
Oui,
mais pourtant, les autres comptent sur vous.
Mais vous comptez sur eux aussi.
Mais tout à fait. Mais c'est vrai, en fait. C'est la troupe, c'est la magie de la troupe. Et ça, c'est génial.
C'est une émulation.
Moi, j'ai moins le trac quand je suis seule. Quand il est là, j'ai le trac. Je vous le dis sincèrement. Il faut dire que vous avez une troupe formidable.
Il n'y a qu'un mot à dire.
C'est vrai,
un
ça.
Un prof formidable et une troupe formidable. On s'entend très bien.
Vous vous entendez très bien. Et nous, quand on vous a vu jouer, donc je n'étais pas toute seule dans le public, on s'est dit, honnêtement, ce sont des professionnels.
C'est vrai.
Alors qu'ils sont amateurs. Hein. Oui. Ils font un travail remarquable. Alors, je n'en parlerai pas plus, parce que vous avez peur pour cette prochaine pièce. Donc...
Pas peur, mais on ne sait pas en fait.
Voilà, vous n'êtes pas encore...
On ne connaît pas la date, on ne sait pas encore...
On peut dire ce que c'est ou...
En tout cas, je n'ai pas peur, parce que je commence à connaître Jean-Pierre, et c'est vrai que c'est un magicien. C'est-à-dire qu'au
départ,
on pense toujours que, et puis d'un coup, ça sort du chapeau, on se dit bon...
Oui, et puis il ne présentera pas votre travail si, selon lui, il n'est pas abouti. Ne
t'inquiète pas du tout pour ça.
Anne-Marie Grisogne, la chanteuse mezzo-soprano et professeure au conservatoire Henri Thomas, et qui fait partie du trio Les Nymphes, et notre invitée jusqu'à 18h.
Toc-toc, c'est son année.
Lorsque je vous ai demandé de choisir une année, vous n'avez pas réfléchi longtemps. Vous m'avez dit, je ne sais plus exactement, Marie, de quelle année s'agit-il, 2011, 2012 peut-être. Mais en tout cas, je me souviens très très bien de ce moment magnifique, très fort. C'était dans l'église de Calanzal.
Ouais, c'était dans l'église de mon village, l'église Saint-Blaise, où j'ai interprété le Requiem de Mozart. Et c'était un moment très fort parce que, bon, d'abord, interpréter une œuvre...
L'une des plus belles au monde.
L'une des plus belles au monde, c'est déjà formidable. Mais en même temps, il y a eu l'émotion des souvenirs d'enfance et puis l'émotion aussi de... La dernière fois que j'étais rentrée dans cette église, c'était pour l'enterrement de papa. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont... Mêlée.
Et puis les musiciens qui vous entouraient.
Et les musiciens, alors voilà, il y a mes amis, Françoise Aiguilloutchan et Jean-François Maras, qui débutait.
Et qui est un immense chanteur.
Qui est un immense chanteur. Alors, qui débutait.
Je vous avez de bonnes fréquentations.
Ouais. Elles sont pas mal, mes fréquentations, quand même. C'est vrai, Marie, c'est vrai. Mais Jean-François Maras, je me demande même si. Il était encore étudiant, je crois, ici, encore, sur Ajaccio. Il prenait des cours avec M. Grisogne. Donc, il n'était pas encore parti à Paris. Voilà.
Jean-François Maras, donc, c'est un jeune ténor qui est originaire d'Ajaccio, qui a été donc, au Conservatoire National de Paris. Il y a un documentaire qui lui est consacré, je crois que le tournage est terminé. Et c'est ce genre de chanteur, vous savez, dans les écuries des conservatoires, un peu outsider, mais avec une telle volonté, un tel timbre, parce qu'il a un très très beau timbre, qu'il est repéré. Et c'est le cas de ce garçon qui a été repéré, et qui est vraiment... Alors je ne sais pas, vous, quand vous l'avez connu, si vous aviez senti qu'il y avait quelque chose.
Alors j'avais senti qu'il y avait quelque chose, mais par contre...
C'était très en dedans, c'était timide.
En dedans. Ouais. C'était encore très timide.
Ouais, oui.
Mais par contre, une forte personnalité, puis il nous faisait rire. C'est marrant, hein, Jean-François.
Mais ça, c'est un indice, hein. Ça, c'est un indice. Une forte personnalité, c'est un indice pour être un grand chanteur.
Et donc, voilà. Donc, on a passé un très bon moment.
Allez, on s'écoute un petit bout du Lacrymose, dirigé par Karajan. C'est juste pour mon petit plaisir. Ben voilà, après féliciter Lotte et Anne Meret, voici donc le Requiem de Mozart avec un extrait de Lacrimose qui est donc la dirigée par Karajan. Je vous conseille cet enregistrement, c'est selon moi le meilleur si vous avez envie d'écouter le Requiem. Et puis voilà, c'était pour faire un clin d'œil à cette année 2012 que vous avez choisi, Anne-Marie Grisogne. Oui, oui. Je rappelle qu'avec les Nymphes, vous vous produisez le 28 mai au Centre d'art polyphonique de Sartène à 19h et que évidemment vous êtes prêtes toutes les trois avec Julia Knecht et avec Émilie Ferry à vous déplacer si des mairies, des collectivités, des écoles, pourquoi pas pour septembre, sont intéressées, puisqu'il y a aussi un regard, une intention pédagogique à travers ce concert. Qu'avez-vous trouvé en 2012, Jean-Michel Fratici?
Ah ben en 2012, tout le monde a eu peur le 21 décembre.
Ah,
vous souvenez-vous pourquoi?
Pour la fin du monde.
Pour la fin du monde, oui. C'était soi-disant la fin d'un cycle de 5125 années dans le calendrier maya.
On n'aurait pas vécu ce moment-là.
Et non, on aurait raté ça. Oh. Donc alors, si vous êtes vraiment impatientes, toutes les deux, on a refait les calculs et selon le calendrier maya, ce serait en 2116.
Donc
je vous invite à revenir dans ce studio en 2116 avec nous, ça va être parfait.
Bon, ils se sont plantés les mayas, avec tout le respect qu'on compte.
Ce ne sont pas les Mayas qui se sont plantés. Les Mayas avaient un calendrier qui était
super,
bien précis.
Ils étaient, c'est ceux qui ont interprété
c'est l'interprétation,
voilà, de ce calendrier.
Nostradamus, oui.
D'accord.
Et autrement, il y a l'abrogation d'une loi qui avait fait...
Mais on ne parlait pas de Pierre Cardin.
Beaucoup. Non, pas lui, non. Ni de Paco Rabanne.
Ni Paco Rabanne, plutôt.
Oui. Oui. Et donc, l'abrogation d'une loi, une abrogation qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui en ferait tout autant aujourd'hui. Écoutez.
9 hommes, 2 femmes, les sages du Conseil constitutionnel ont rayé d'un trait de plume une loi vieille de 10 ans, punissant d'un an de prison le délit de harcèlement sexuel. Pourquoi cette abrogation? La loi de 2002 tenait en une phrase. Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles est puni. Trop imprécis pour les constitutionnalistes.
La disposition sur le harcèlement sexuel ne comportait absolument aucune précision. Elle revenait à dire en quelque sorte, est un harcèlement sexuel, ceux qui harcèlent sexuellement. Bon, le Conseil constitutionnel a dit que ce n'est pas suffisant comme précision.
Pourtant, en 2010, ce texte a permis 70 condamnations, chiffre en constante augmentation. Quelles conséquences? Plus de lois, plus de condamnations possibles pour harcèlement sexuel. Pour sauver leur dossier, les magistrats devront requalifier les faits en tentative d'agression sexuelle ou harcèlement moral. Mais pour les victimes, le mal est déjà fait.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ferait beaucoup de bruit si on abrogeait à nouveau ce genre de loi.
C'était l'abroger pour la modifier, pour la préciser, en réalité.
Ah ben, le Conseil constitutionnel, ouais. Non, il dit c'est constitutionnel ou ça n'est pas constitutionnel.
Bien sûr.
Donc, on en entend parler de temps en temps, il y a des rumeurs dans le lyrique, dans l'opéra.
Oh là là, mais sur quel terrain?
Ah oui,
a-t-il se placé? Comme dans tous les milieux.
Bien sûr.
Voilà, ni plus ni moins.
Tout à fait, oui.
Bon.
Comme dans tous les milieux.
Bon, est-ce que vous êtes gourmande?
Vous voulez qu'on parle de la radio? Vous voulez qu'on vous pose la question à la radio?
Si vous savez, je suis harcelé par Olivier Balbino, vous ne m'en parlez pas. Non, vous, notre responsable des programmes, vous êtes gourmande?
Oui.
Bien, écoutez.
Ça date de 2012.
Ça date de 2012, ouais. Cette pub, oui.
D'accord.
Effectivement. Le slogan est plus ancien.
Aucun rapport avec le harcèlement.
Aucun rapport. Tu veux des bonbons?
Tu veux des bonbons? C'est pour ça que je me pose la question.
En fait, voilà. Vraiment.
Oui, vous disiez.
Non, c'était juste pour la musique que tout le monde a dans la tête. Il y a des musiques comme ça de publicité.
Mais on ne peut pas dire cette phrase sans la chanter.
C'est très difficile.
On ne peut pas dire Haribo, c'est beau la vie, c'est ridicule.
Pour les grands et les petits.
Ouais. Et ça date vraiment de 2012 ou c'est cette pub-là qui
date de 2012? C'est cette pub qui date de 2012.
Ben, non, c'est pas les Haribo, les fraises Tagada, ça fait belle fête qu'elle s'existe.
Il y a très longtemps, oui, effectivement.
Eh bien écoutez, merci Jean-Michel Fratici.
Voilà,
je me demande ce qui vous traverse en ce moment. Je suis... Oui, allez-y.
Non, il faut dire que 2012, bon, on le prend comme ça avec cette publicité, c'était également les attentats de Toulouse, donc difficile à passer sous silence. Mais bon.
Bien sûr.
Ça plomberait un peu l'ambiance.
Mais non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est pas vrai que j'ai sorti le son que vous aviez mis dans la conduite et que j'ai dit non, on ne passe pas ce son de 2012, pas
oui,
du
chef,
tout.
Bien chef.
Pas du tout. Nous parlions tout à l'heure du réveil d'Ernest Chausson avec... Balzac, et là nous allons retrouver La Nuit Théodore de Bonville, toujours Ernest Chausson pour la musique. Et alors là, vous êtes avec Julia, c'est toujours extrait de cette vidéo dont nous parlions, donc on va à nouveau entendre les flashs. Mais je trouve ça bien de l'entendre une fois que vous avez parlé de votre duo, parce qu'on va pouvoir se rendre compte à quel point vous dites vrai. Et à quel point il y a une vraie complicité. Et il y a des voix comme ça. On ignore, parce que c'est magique, hein. Ça n'est pas que les personnalités, c'est aussi les voix, les timbres.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
On peut pas toujours tout expliquer.
Et non, qui se marient très très bien. Bon, moi, c'est vrai que les voix de mezzo, j'ai un petit... J'ai un petit faible. Eh ben, je le dis toujours. Moi, les voix de mezzo, ben, il y a une chaleur, il y a quelque chose de particulier qui vient me chercher. Vous, il y a des voix comme ça qui vous touchent plus particulièrement ? Il n'y a pas de harcèlement dans ma question.
Il n'y a pas de tessiture qui me touche particulièrement. Il n'y a pas de tonalité qui me touche particulièrement. Quand la voix est belle, quand l'œuvre est belle,
Aimez les voix corses, ça je le sais.
Je suis prêt à fond.
Hein, mais vous aimez beaucoup les voix corses.
Ah oui, ben évidemment.
Bien sûr. Et vous, je sais que c'est la voix de Franco Corelli, par exemple.
Ah oui.
Ah oui, on partage ça toutes les deux.
Ah oui, ouais, c'était mon ténor.
J'adorais la voix d'Anna Mauf, pour moi.
Ah, Anna Mauf, j'adore, vous plaisantez, alors là, vous, c'est une grande classe, Anna Mauf, grande humilité.
Mireille Lafraîne.
Mireille Lafraîne, merveilleux. Pourquoi Franco Corelli ? Vous pourriez l'expliquer ?
Bah, d'abord, parce qu'il
était qu'il était beau.
Allez,
je savais que l'Edouard Sarrère avait un grand poster de Franco Corelli et Mireille Lafraîne. Et j'étais une adolescente, une ado, hein. Et j'étais là.
Mais votre frère, il ramenait ça, il ramenait, au lieu d'avoir des posters de John Travolta ou je ne sais qui.
C'était un passionné d'opéra. Hein.
Ouais.
Voilà, donc c'était, il avait des posters de.
Et puis il partait, hein, il partait exprès.
Oui.
Et donc vous aviez ce poster sous les yeux.
Franco Corelli, Mireille Lafraîne.
Et dans sa voix, qu'est-ce que vous aimez ?
Ah, j'aime cette. D'abord, j'aime le. Je suis plus attirée par les voix graves. J'aime beaucoup les barytons, mais j'avoue que le ténor dramatique avec du grave et de l'aigu. C'est beau.
Celui-là, il a tout.
Ah, il a tout. Alors il paraît qu'il fallait le pousser pour qu'il aille sur scène parce qu'il avait.
Un trac fou.
Oui. Mais bon, après, une fois qu'il y était...
Bah tiens, bio. Il fallait le tirer pour l'en sortir.
Non, c'est vrai, il fallait le pousser, paraît-il. Je l'ai entendu dire plus d'une fois. Merci beaucoup, Anne-Marie Ghezzani, d'avoir été
très agréable.
Notre invitée. Je rappelle qu'on vous retrouve le 28 mai au Centre d'art polyphonique de Sartène à 19h avec les nymphes, c'est-à-dire Julia Knecht.
Pourquoi les nymphes, d'abord ?
Ah, ben ça, c'est...
Ah, c'est bien, parce qu'on nous pose toujours la question. Ben, c'est beau comme mot.
J'ai attendu la fin.
Et...
Vous avez attendu qu'on n'ait plus le temps, c'est ça qui est bien.
Moi, je croyais que c'était un hommage à Pierre-Louis, puisqu'on parlait de Banville, pourquoi pas.
Mais oui, aussi, c'est surtout un hommage à la mythologie.
Oui, la mythologie.
Voilà, aussi. Parce que les nymphes font de la musique, voyez-vous. Enfin, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est ça. Allez, on écoute la nuit, et on se sépare, et on vous remercie.
Merci
on vous embrasse très fort, Anne-Marie Ghezzani, ainsi que Julia Knecht.
À très bientôt.
Merci Jean-Michel, au revoir.